CFM Lacaune, le MAG.
Et le MAG aujourd'hui est consacré à la commune de la Montellaria, son travail sur l'environnement. Ça fait plusieurs émissions que l'on fait sur le sujet et on est toujours depuis le devant de la salle de la Montellaria. Bon, on est fin juin, il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Peut-être vous entendez le froid dans nos voix et les mains qui se frottent, mais c'est dans la bonne ambiance et c'est ça qui est le plus important. Alors, je suis toujours donc avec Monsieur le maire Pierre Escande, Eliane et Chantal qui sont donc toutes les deux conseillères municipales et aussi de l'association Lou Montelliot. C'est important de le dire parce que vous participez à plein d'actions finalement dont on parle aujourd'hui. Et puis donc de l'autre côté de la table, il y a donc Coralie Goleski du réseau Sagne et puis François Picot, directeur du CPIE du Haut-Languedoc. Voilà, donc aujourd'hui l'émission sera un peu plus spécifiquement consacrée aux zones humides et aux Sagne. Alors peut-être pour rentrer de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'une Sagne, une zone humide? Bon, parce que finalement, bon, on ne sait pas forcément.
Donc une Sagne est une zone humide. Donc la Sagne, c'est la dénomination locale pour désigner un peu tout ce qui était un peu terrain humide. Tout ce qui était un peu bartasse, mouillère, voilà, dès qu'il y avait un peu de jonc, voilà, c'est la Sagne. Donc la zone humide se caractérise par être... c'est vraiment ce qui fait l'interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. C'est vraiment l'entre-deux.
D'accord. Donc c'est vraiment un endroit où il va y avoir toujours de l'eau stagnante ou pas forcément? Alors. Non mais c'est pas facile hein.
Non, c'est pas facile, mais suivant où on se trouve sur le territoire, donc sans parler de précisément de celle de la Montellaria, la loi les caractérise par des terrains qui sont inondés toute l'année ou temporairement.
D'accord. Fait.
Donc elles se reconnaissent par une végétation caractéristique et ou un sol hydromorphe.
D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il va conserver l'eau et qu'il va le restituer petit à petit, c'est ça, hydromorphe,
c'est
ça?
Hydromorphe, c'est la nature du sol qui montre que l'eau traverse ces sols en fait.
D'accord, donc on voit un petit peu mieux ce que c'est une Sagne, une zone humide, merci déjà Coralie. Du coup, à la Montellaria, il y a cette Sagne des Baisses qui était en plein cœur de la forêt et qui finalement a fait l'objet d'une réhabilitation. Peut-être comment ça s'est passé historiquement, je ne sais pas lequel de vous veut répondre.
Je peux peut-être démarrer en relatant le départ de cette affaire-là. C'est suite à avoir été élu au début du premier mandat, dans les tiroirs, j'ai trouvé à la mairie un dossier sur une proposition de l'association de nous aider à réhabiliter cette Sagne. Et ça m'a paru intéressant. Ça a été le départ un peu de tout ce qu'on fait depuis.
Hein. C'était en 2008, vous avez été élu la première 2009, fois.
Voilà. Mmh. Et donc là, j'ai appelé Coralie, le numéro de téléphone qu'il y avait sur ce dossier. Et puis, je vais laisser la parole à Coralie qui a pris
la suite et le relais.
La suite et le relais, voilà.
Oui, donc du coup, la particularité de la Sagne, c'est que c'est une Sagne qui a une superficie de 2 hectares. Mais une seule partie est propriété de la commune. Tout le reste appartient à une multitude de propriétaires. Donc le projet aussi a démarré de là, c'est parce que la mairie était volontaire pour mettre en place une action sur cette Sagne. Mais pour que ce soit cohérent, elle voulait aussi que ces propriétaires-là, qui ne sont plus sur la commune, s'emparent aussi de ce projet ou participent en tout cas à ce projet. Donc il a fallu envoyer pas mal de courriers pour essayer de faire adhérer...
Faire une convention avec chaque propriétaire, ouais, des petites parcelles de quelques arbres.
Hein. Oui, c'était vraiment des petits bouts par petits bouts. Combien d'arbres ou d'hectares fait la Sagne?
Du coup, 2 hectares.
D'accord.
Totalise 2 hectares.
Et alors comment ça se... déjà comment on s'aperçoit qu'il y a une Sagne sur le terrain? Comment on se dit qu'elle ne va pas forcément bien? Et comment on la réhabilite? C'est un petit peu ça le projet du coup.
Oui, c'est ça. Donc la zone humide, quand je l'ai inventoriée, je l'ai tout de suite reconnue par sa végétation assez caractéristique. Donc c'est une Sagne qui a été abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années. Du coup, les saules ont pris le dessus. La Molini s'est formée en touradon. Voilà, un peu au niveau des
espèces dominantes. C'est des grosses touffes, c'est ça?
Voilà, c'est les grosses touffes qu'on voit. Voilà, donc c'est la Molini, une graminée qui sans pression pastorale, en fait, se développe en formant des touradons.
D'accord. Voilà. Donc là, vous vous apercevez de ça. Et ensuite, Donc vous voyez qu'il y a une sagne, vous voyez les plantes spécifiques, mais vous voyez qu'elle ne va pas forcément très bien.
Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est abandonnée, mais qu'il y a la possibilité de mettre en place des choses. Mais il fallait quand même prendre la température au niveau de la commune et savoir ce qu'ils étaient prêts à faire. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire s'il n'y a pas la volonté derrière de mettre en place des choses. Et du coup, avec M. Escande, ça a été... Il a tout de suite vu le potentiel que pouvait amener cette sagne sur la commune et qu'on pouvait travailler et en partenariat avec un éleveur de la commune et aussi rajouter une boucle à la randonnée existante.
Du coup, sur la Sagne, vous avez trouvé un agriculteur qui voulait bien faire pâturer finalement ses vaches. C'est ça. Alors je sais pas.
Alors ça, c'est Monsieur Escande qui a négocié avec les éleveurs.
Avec notre éleveur et qui est en même temps notre agent communal.
Bon, alors on lui passe le bonjour. Comment s'appelle-t-il cet homme-là? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler.
Bernard Azaïs.
Bernard Azaïs.
La gentillesse et l'amabilité de mettre. Alors il met une paire de vaches, si je puis dire, tous les étés. Enfin, une grosse partie de la saison estivale. Sur cette sagne. Et ensuite, techniquement, peut-être que Coralie pourra vous donner des détails sur le travail que font ces vaches. Hein.
Donc les vaches, je pense qu'elles ont commencé à pâturer le site en 2012. Ouais. D'après en remontant un peu le fil. Et c'est l'année dernière qu'on a fait le suivi un peu de... Le dernier suivi qu'on a fait sur le site. Et voilà, quand on regarde part et d'autre de la clôture, ben on voit très nettement le travail des vaches, c'est-à-dire que les touradons sont abrutis, donc sont moins hauts, moins denses, moins serrés les uns aux autres. Les bêtes passent dans les saules, donc cassent les branches. Donc voilà, c'est ce qui fait limiter leur progression, en tout cas au niveau des arbustes. Et puis le passage, voilà, le fait qu'elles aboutissent les touradons, qu'elles pâturent par les pattes, du coup ça va permettre aux autres espèces végétales de pouvoir revenir en fait, d'avoir cet espace là puisque la moulinière avait tendance quand même un peu à tout étouffer quoi.
CFM Lacaune, le mag.
Vous écoutez le MAG sur les ondes de CFM Lacaune, c'est la seconde partie de votre émission. Aujourd'hui, nous sommes à La Montélarié, puisque durant tout l'été, l'équipe de CFM se déplace dans certaines communes du territoire. La Montélarié, pourquoi? Pour parler de l'environnement et pour parler du sujet. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Escande, maire du village. Il y a aussi les conseillères municipales Eliane Gerstenmaier et Chantal Guillot. Et puis Caroline Golecki de Rhizobium, le réseau Sagne, et François Picot du CPE du Haut-Languedoc. L'émission d'aujourd'hui est un peu plus consacrée aux Sagne et à la Sagne qui a été réhabilitée par la municipalité sur la commune de La Montélarié. Nous en avons déjà parlé un petit peu avec notamment le pâturage de vaches. Alors pour continuer un petit peu plus en avant le sujet, Coralie, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plantes que l'on retrouve désormais sur cette Sagne qui a été réhabilitée et sur laquelle vous travaillez maintenant depuis plusieurs années?
Oui, on a revu la drosera, donc la fameuse plante carnivore des tourbières. Donc on l'a aperçue sur la zone pâturée, même sur des rochers suintants où elle s'était développée. Donc ça, oui, quand on retrouve la drosera sur une tourbière abandonnée, on est quand même content du travail qui a été accompli, quoi.
Donc la drosera, c'est vraiment le symbole ultime entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a d'autres espèces végétales ou animales, on va dire, qui représentent aussi la bonne santé d'une sagne, voilà.
Ouais. Alors du coup, on a quand même les espèces caractéristiques comme les sphaignes. Les sphaignes, ce sont les petites
mousses.
Ouais, voilà. Ouais. Qui ont ce rôle d'éponge en fait. Voilà. Par leur constitution, en fait, elles permettent justement d'emmagasiner jusqu'à 30 fois leur poids en eau. En fait, donc elles ont quand même un rôle important. Et si on les retrouve présentes dans le milieu, ça veut dire que le milieu est encore humide. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'humidité et dans le sol et au niveau atmosphérique pour qu'elles puissent se maintenir. Donc les tapis de sphaignes sont encore présents. On retrouve également la Narthésie ossifrage. Alors Narthésium ossifragum en latin, son nom officiel.
D'accord.
Donc c'est une jolie petite plante qui fleurit en grappes, des fleurs jaunes avec les étamines orangées, un peu velues. Mais elle est magnifique comme espèce. Et du coup, elle se développe sur des écoulements d'eau en fait. Donc elle est caractéristique et indique des écoulements d'eau. Donc ça aussi, c'est intéressant au niveau de l'hydrologie, du fonctionnement hydrologique de la Sagne. Quand on voit ces espèces-là, voilà, on sait que la zone humide est en bon état.
Et du coup, est-ce que la Sagne des Baïs, du coup, elle est mise en valeur par un chemin de randonnée, c'est ça? Il y a eu un travail qui a été fait, donc c'est une boucle de la Montéliotte.
Oui, qui a été rajoutée parce que notre randonnée, la Montéliotte, passe vraiment juste à côté de cette Sagne, donc on a eu l'idée de faire une boucle de découverte de la Sagne, justement, et là, avec l'aide financière du département.
Et là aussi, est-ce qu'on voit un changement de mentalité petit à petit? Là, je me tourne vers le réseau Sagne, hein, parce qu'en fait, pour expliquer, le réseau Sagne, c'est à la fois un travail d'observation et de suivi de Sagne, de zones humides, mais c'est aussi un travail avec les propriétaires terriens sur le maintien de ces Sagnes, de ces milieux humides. Donc, est-ce qu'on voit une évolution aussi des mentalités par rapport à ça? Parce que vous œuvrez maintenant depuis de nombreuses années.
Alors, le réseau Sagne, en fait, c'est 20 ans cette année.
Voilà.
voilà.
Ça ne nous rajeunit pas, c'est
non,
ça?
Non, pas du tout. Mais oui, ce qu'on observe, c'est que ces dernières années, on est extrêmement sollicité justement pour mieux comprendre ces milieux, savoir comment les gérer parce qu'on ne veut pas faire de bêtises. On sait que c'est des milieux qui sont intéressants, qui ont leur utilité et du coup, on nous interpelle, oui, pour ne pas faire de bêtises.
Et voilà. Est-ce que sur le territoire des Monts de la Cône, de la montagne du Haut-Languedoc, ce large territoire, les Hautes Terres d'Oc, on peut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de zones humides? Est-ce qu'aussi on est peut-être un territoire important pour les vallées plus basses? Enfin, est-ce que ces zones humides aussi ont leur intérêt par les temps qui courent, avec les changements climatiques en tant que rétention d'eau, restitution de l'eau pendant les périodes de sécheresse?
C'est le gros intérêt de ces milieux-là, c'est ce rôle de régulation des écoulements d'eau. Donc emmagasiner de l'eau dans les périodes de forte pluie pour les restituer progressivement au bassin versant et notamment dans les cours d'eau en période d'étiage.
Donc ça aussi, c'est vraiment une prise de conscience des collectivités et puis finalement pas que des collectivités qui ont ces sagnes-là, ces zones humides-là.
C'est ça, mais on en parle et le point majeur, bon, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment de cette connaissance de ces milieux, faire comprendre comment ces milieux fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme espèce animale, végétale, enfin, peu importe. Mais du coup, dès que la personne, le propriétaire s'en empare et comprend, c'est plus facile ensuite de mettre en place des pratiques de gestion qui soient adaptées.
Et est-ce que là aussi, on efface un petit peu les légendes, les peurs qu'il y avait autour de ces zones-là, hein, parce que c'est des zones un peu marécageuses, des zones un peu de démons, je ne sais pas,
les croyances qu'il y avait autour, voilà. En tout cas.
Mais est-ce que c'est en train de disparaître, de la culture populaire?
Oui, il y aura toujours quelques-uns qui sont un peu, qui restent avec cette idée que ces zones ne servent, enfin, entre guillemets, qui ne servent à rien, qu'il faut qu'elles soient productives, en fait. Mais ça reste vraiment en marge.
Voilà. D'accord.
Donc, parce que ce soit au niveau des agriculteurs, ils ont vraiment compris que ces zones avaient quand même un intérêt, qu'elles constituent quand même une ressource fourragère pour les périodes sèches.
Et puis, avec un intérêt, je suppose, aussi alimentaire pour les animaux qui pâturent.
Oui, oui, tout à fait. Parce que, en fait, moi, j'en ai plusieurs qui me confient qu'elles ont la chance d'avoir ces milieux-là et d'éviter d'entamer les ressources de l'hiver quand les étés sont très secs.
Oui, donc en fait, il y a maintenant une prise de conscience aussi que c'est monétairement peut-être intéressant aussi. Enfin, c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais bon, je crois qu'il faut aussi dire que bon, ça compte aussi.
Oui, oui, mais les périodes de sécheresse aident aussi à cette prise de conscience, à se dire « Ah mais oui, mais là c'est encore un peu vert, ouais. Là je peux encore y mettre mes bêtes un petit peu, elles auront encore de quoi en manger encore un peu, quoi ».
Et est-ce que là aussi, on peut toujours, en tant que propriétaire, si on nous écoute aujourd'hui sur CFM Lacon, est-ce qu'on peut se tourner vers le réseau Sagne, avoir des renseignements sur des zones qu'on pourra avoir, qui ont été peut-être asséchées à un moment, qui sont en mauvaise santé, mais qu'on voudrait peut-être remettre en fonctionnement, c'est pas le bon terme.
Pas restaurer, mais ça peut être juste des zones abandonnées qu'on a envie de revoir pâturer. Ça peut être adapter la gestion qu'on en a pour retrouver la biodiversité. Mais on s'intéresse aussi, enfin, toutes les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues, mais même celles qui n'ont pas les moyens de gestion, c'est-à-dire que même si on a des adhérents qui n'ont pas les moyens de gestion de leur zone humide. Alors soit on arrive à trouver des partenariats et c'est très bien, mais pas nécessairement. Mais du coup, les milieux, on les laisse évoluer spontanément. Et ce n'est pas un problème en fait. Tant qu'on n'a pas intercepté les écoulements ou qu'on n'a pas asséché le milieu ou on n'a pas dégradé, l'abandon n'est pas une dégradation en fait. Même si au niveau de la végétation, on va se retrouver avec des choses moins diversifiées, on va retrouver d'autres habitats et c'est intéressant, si on prend du recul et au niveau du massif, d'avoir une mosaïque d'habitats différents.
D'accord, donc voilà, donc il faut aussi savoir laisser faire aussi quand on ne peut pas faire autrement la nature.
Ce qui est important, c'est la préservation, le maintien de ces milieux-là.
Donc ça c'est important et l'important c'est de les connaître aussi. Donc ben, je vous invite à aller faire la randonnée La Montéliot parce que c'est une très très belle randonnée, c'est une des plus belles randonnées d'ailleurs du secteur. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'Office de Tourisme Montzellac au Languedoc. Et puis vous faites la boucle qui passe par la Seine des Bailles, c'est comme ça vous avez les renseignements. Et puis on n'oublie pas de venir les 11 et 12 septembre pour fêter les 20 ans, c'est ça, du réseau Sagne pour la fête de la Sagne.
Oui c'est ça, donc le 11 et 12 septembre à la Montélarié, la mairie de la Montélarié nous accueille oui, pour cette...
Un gros week-end.
Oui,
un gros week-end, il faudra d'ailleurs réserver, je pense, parce que c'est très très oui. plein et très très vite.
Et il fera très beau.
Et il fera très beau. On le souhaite en tout cas. Bon, je vous remercie vraiment d'avoir été avec moi aujourd'hui devant la salle de la Montélarié et en espérant que le soleil soit là le 11 et 12 septembre. Merci beaucoup.